On va essayer d'apporter une petite exhortation. Ce n'est pas vraiment de l'improvisation, mais presque, puisque c'est au pied levé que j'ai dû me pencher sur quelques passages comme ça que nous allons rappeler. Supposons que nous sommes bien au chaud en dessous de nos couettes et que nous dormons paisiblement, que nous passons une nuit réparatrice, de sommeil réparateur, et puis que dans notre sommeil, Dieu nous parle à travers un rêve, c'est arrivé, et qu'il nous pose cette question: Benoît, demande-moi ce que tu veux et je te l'accorderai. Alors qu'est-ce que je vais lui demander ? La santé, une longue vie, des richesses, une certaine notoriété, certains privilèges, une belle maison, une belle voiture. Qu'est-ce que je vais demander à Dieu s'il me demande, s'il me dit à travers un songe, et demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner, je vais te l'accorder. Difficile, hein ? C'est une question que Dieu a posé à un jeune homme il y a 3000 ans d'ici environ. C'était en l'an moins 950 environ avant Jésus-Christ. Et Dieu, à travers un rêve, s'est révélé à Salomon, le troisième roi dans l'ordre chronologique de la monarchie en Israël, après le roi Saül, après le roi David, son père, Salomon a été intronisé et il est devenu roi, à 17 ans environ, très jeune. Et Dieu va lui demander quelque chose à travers ce jour. On va lire le verset. Hein. Juste avant que David ne meure après un règne long de 40 ans, où il y a eu des guerres pour instaurer la paix, pour affermir la royauté en Israël. Juste avant sa mort, David va appeler son fils Salomon pour lui faire ses adieux d'une part, mais aussi pour lui donner quelques dernières recommandations. On va les lire, ces recommandations. 1 Roi 2, 4, 1 à 4. 1 Roi chapitre 2, premier livre des Rois chapitre 2, versets 1 à 4. Et David, donc, approchait de sa fin et il donna ses ordres à son fils Salomon en disant: « Moi, je m'en vais où va tout ce qui est terrestre. Sois fort et sois un homme. » Observe l'ordre de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant dans la vérité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Observe les commandements de l'Éternel. Et Salomon se trouve dans une situation où il se sent submergé, écrasé, par le poids de la responsabilité qui lui incombe finalement. C'est un jeune homme. Il a l'âge de Nicolas, 17 ans. Et il est roi. Quelle responsabilité. Et après avoir été offrir des sacrifices en grand nombre sur un des hauts lieux établis en Israël, il faut savoir que le temple d'Israël n'était pas encore construit à Jérusalem. Donc, on offrait des sacrifices, des holocaustes, des services religieux sur ce qu'on appelait des hauts lieux. C'était des autels qui étaient dressés à certains endroits. Et là, eh bien, David va aller à Gabaon pour offrir à Dieu des sacrifices. Et puis, après avoir offert ces sacrifices à l'Éternel, David va se coucher, va s'endormir, et c'est là que Dieu va se révéler à travers un rêve à Salomon. Et on va lire les quelques versets qui suivent au chapitre suivant, chapitre 3. 1 Roi 3:5. Et dit, à Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te le donne. Salomon répondit, tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme. Je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, ou un cœur qui est à l'écoute, pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande formulée par Salomon, plutôt Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis. Mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. C'est une promesse que Dieu a faite à Salomon. Et que Dieu fait aussi pour chacun d'entre nous. Alors, sommes-nous sages? Qu'est-ce que la sagesse? Il faut différencier deux formes de sagesse. La sagesse humaine, la sagesse des philosophes, et la sagesse selon Dieu, ou la sagesse selon la Bible. Alors, la sagesse humaine n'est pas mauvaise en soi. Elle nous invite à faire preuve de quoi ? De réserve, de prudence, de circonspection. À la longue, quand on devient pragmatique avec l'expérience, on acquiert une certaine forme de sagesse. Ou on est censé, en tout cas, acquérir une certaine forme de sagesse. Et puis, il y a la sagesse des philosophes, une autre forme de sagesse humaine. Une sagesse qui est le fruit du raisonnement, le fruit de la raison, le fruit de la réflexion. La sagesse des philosophes. Mais la sagesse de Dieu est bien supérieure encore à cette sagesse des philosophes, à cette sagesse humaine. Et puis, il y a d'ailleurs, le livre des Proverbes qui dit au chapitre 3, versets 5 et 6, qu'il ne faut pas trop compter sur sa propre sagesse. Elle est là, elle est bien, elle est vertueuse, mais elle est insuffisante. Et le livre des Proverbes nous encourage non pas à nous appuyer sur notre propre sagesse, mais à nous confier en Dieu. C'est ce qu'il dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Parce que la sagesse humaine est trop courte, est insuffisante. Il faut une sagesse nettement supérieure qui la supplée. Et puis, il y a un autre verset qui nous montre que cette sagesse humaine est bien insuffisante, par rapport à la sagesse divine. Paul l'écrit en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Il écrit ceci: « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Donc la sagesse humaine est importante, est bonne, est belle, est vertueuse, mais elle est insuffisante. La sagesse de Dieu est supérieure à la sagesse humaine. On retrouve le mot sagesse à raison de 167 fois dans l'Ancien Testament, on trouve le mot sagesse. Et on le retrouve 54 fois dans le Nouveau Testament. C'est dire ô combien la sagesse est importante pour Dieu. 167 fois revient la sagesse dans l'Ancien Testament et 54 fois pardon, dans le Nouveau Testament. Dieu accorde une importance à la sagesse. On va lire deux versets. Et finalement, le temps passe. Hein. On va lire deux versets. Le premier dans l'Ancien Testament, le deuxième dans le Nouveau Testament. Deux versets qui vont nous définir en quelque sorte quel concept accorder à la sagesse divine, à la sagesse d'en haut, à la sagesse de Dieu. Cette notion de sagesse divine, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Le premier, c'est dans le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 7. Un verset qui est bien connu, hein. On le connaît ce verset. Il nous dit quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance ou de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors ça ne veut pas bien évidemment dire que nous devons trembler de peur devant Dieu. Nous devons être caractérisé par une peur servile devant Dieu. Ça ne veut pas dire cela. La crainte de l'Éternel, c'est tout simplement le respect de son nom, le respect de ses commandements, l'obéissance à ses instructions, l'obéissance à ses préceptes, l'obéissance à sa loi, la soumission à sa volonté, la crainte de l'Éternel. C'est ce que David a donné comme dernière recommandation à son fils Salomon avant de mourir. Observe les commandements de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. Et c'est ce que Dieu a rappelé encore à Salomon à travers son songe, à travers son rêve. Observe mes commandements, suis mes instructions, adhère à ma loi, obéis à mes commandements. Et puis il y a le deuxième verset dans le livre de Jacques. C'est un passage aussi qui est bien connu, hein. Livre de Jacques, et là il y a une richesse qui nous définit la nature de la sagesse d'en haut, la nature de la sagesse de Dieu. Jacques 3, 17. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jacques? Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut, en opposition avec la sagesse d'en bas, en opposition avec la sagesse humaine. La sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans duplicité et sans hypocrisie. La sagesse d'en haut est donc pure, pacifique, modérée, conciliante, miséricordieuse, elle manifeste de bons fruits, elle est sans duplicité et sans hypocrisie. Pure. La première caractéristique de cette sagesse d'en haut, c'est qu'elle est pure. Elle est exempte de toute souillure. La sagesse ne peut demeurer dans un cœur souillé. La sagesse vise donc la pureté de l'âme. Elle évite les souillures du péché, elle entretient un cœur propre. Première caractéristique de la sagesse d'en haut, elle est pure. Elle balaye les souillures du cœur. Deuxième caractéristique de la sagesse, c'est qu'elle est pacifique. Elle évite les querelles, elle évite les tensions, elle évite les disputes. Elle recherche le pardon, elle recherche la réconciliation, elle entretient la paix. La deuxième caractéristique de la sagesse d'en haut, c'est qu'elle est pacifique. Est-ce que nous sommes des artisans de paix? Est-ce que nous veillons à maintenir un cœur sans souillure, un cœur propre, un cœur pur? Troisième caractéristique de la sagesse d'en haut, elle est modérée. Elle est modérée, c'est-à-dire elle est réfléchie, elle est sobre, elle est sans excès, elle est sans débordement. Troisième caractéristique de la sagesse, elle est modérée. Quatrième caractéristique de la sagesse d'en haut, c'est qu'elle est conciliante. Qu'est-ce que ça veut dire être conciliante? Eh bien, ça veut dire que cette sagesse est portée à maintenir la bonne entente avec les autres par des concessions. Elle est souple. Elle essaye de trouver des solutions aux problèmes. Elle essaye d'arranger les choses. La sagesse est conciliante. Sommes-nous conciliants? Sommes-nous sages? Et puis, une autre caractéristique de la sagesse d'en haut, dont nous parle l'apôtre Jacques, c'est qu'elle est pleine de miséricorde. La miséricorde. La corde tendue vers la misère. C'est pas ça que ça veut dire. Mais en quelque sorte, la corde tendue, une corde tendue vers la misère, pour soustraire celui qui est dans les difficultés, à ses difficultés, à sa misère. La sagesse est pleine de compassion, est pleine de pitié, est pleine de miséricorde. Et puis ensuite, la sagesse est pleine de bons fruits. La sagesse d'en haut produit en nous, en l'homme, de bons fruits. Il y a les fruits de l'esprit, bien évidemment, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, maîtrise de soi, de bons fruits. Il y a aussi le fruit de l'exercice de l'hospitalité. Il y a un verset, mais je ne me souviens plus de la référence. Et puis, il y a aussi le fruit de la pratique de la justice. Être juste, être droit, faire preuve de probité, être juste et droit, la sagesse. Et puis, il y a le fruit qui nous pousse à la repentance aussi. Le chrétien n'est pas nécessairement quelqu'un qui ne commet plus d'erreurs, qui ne pêche plus, mais la sagesse nous pousse à la repentance. Ayez pour fruit la repentance, nous dit la parole de Dieu. Alors, puis il y a encore la duplicité, le fait d'avoir un double langage. je dis ça avec certains, devant certains, et je dis autre chose devant d'autres personnes, avec d'autres individus. La duplicité, la sagesse de Dieu est éloignée de la duplicité. Tout comme elle est éloignée aussi, nous dit l'apôtre Jacques, pour terminer, enfin, la sagesse de Dieu est sans hypocrisie. La sagesse de Dieu fait en sorte que on n'est pas des faux jetons. On n'a pas une telle apparence, un tel visage, une telle attitude devant certains, pour en avoir une toute autre devant d'autres. La sagesse de Dieu, elle est vraie. Elle est honnête. Elle est sincère. Elle n'est pas empreinte d'hypocrisie. Dernier aspect de cette sagesse d'en haut. Alors finalement, cette sagesse qui nous est décrite par l'apôtre Jacques, est-ce qu'elle ne nous fait pas penser à quelqu'un? Est-ce qu'elle ne nous décrit pas les caractéristiques d'une certaine personne, cette sagesse? Ah ben oui, hein. Elle nous définit finalement le portrait, le caractère de Jésus-Christ qui a été fait sagesse pour nous. C'est Paul qui écrit ça encore dans 1 Corinthiens 1:30, que par Dieu, Jésus a été fait sagesse pour nous. Il est la sagesse incarnée. Il est la sagesse visible, tangible, que l'on a pu voir, que l'on a pu apprécier, que l'on a pu... et sur laquelle on essaye de calquer notre propre sagesse. C'est aussi lui, la sagesse personnifiée du livre des Proverbes, et on peut lire, juste avant de terminer ce passage, c'est dans le livre des Proverbes au chapitre 8, et on voit à travers ces quelques versets, véritablement que la sagesse, Jésus personnifie la sagesse dans ce passage-là. On donne à la sagesse une valeur de personne. Proverbe combien ? 8, 22 à 26. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est la sagesse qui parle. Hein. Et écoutez ce qu'elle dit. L'Éternel me possédait au commencement de son activité. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été bâti depuis l'éternité. La sagesse éternelle. Jésus l'éternel. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, j'ai été enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient établies, avant les collines, j'ai été enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps, jouant sur la surface de sa terre. Et trouvant mes délices parmi les êtres humains. Jésus, ou la sagesse incarnée, et trouvant mes délices parmi les êtres humains. Finalement, revêtir la sagesse, c'est revêtir le Christ, revêtir ses attributs, ses traits de caractère. Revêtir la sagesse, c'est revêtir le Christ. Conclusion. Aspirons-nous à vivre et a expérimenté la même sagesse que Salomon a expérimentée. Sagesse qui lui a valu le titre de sage parmi les sages, 1 Rois, chapitre 8, versets 30 et 31. La sagesse de Dieu agit-elle en moi? La sagesse de Dieu opère-t-elle en moi? La sagesse de Dieu influence-t-elle ma vie? Et puis si je manque de sagesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je manque de sagesse, que dois-je faire? Il faut faire comme Salomon. Il faut la demander à Dieu. Et Francis, il a souffle. Hein? Il faut la demander à Dieu. Si je manque de sagesse, il faut la demander à Dieu. Tout comme Salomon l'a fait, et tout comme l'apôtre Jacques nous exhorte encore à le faire dans son chapitre 1er, des versets 5 à 8, on va lire pour terminer. Et cette fois-ci, ça sera fini. Hein. Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et lui sera donné. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et si nous demandons quelque chose à Dieu qui est en adéquation avec sa volonté, nous pouvons être certains qu'il va nous l'accorder. C'est ce que Jésus le souligne. Je ne demande pas à Dieu ni richesse, ni bien pour satisfaire mon ego, ni bien égoïste. Ce que je demande à Dieu, c'est quelque chose qu'il a en vue pour moi, qui est selon sa volonté. Et si je demande quelque chose selon la volonté de Dieu, je peux être certain, si j'ai cette foi, que je vais l'obtenir. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. J'ai souvent besoin de la demander à Dieu.